Aujourd'hui, à l'émission, comme on le fait depuis quelques mercredis déjà, il est question en grande partie de santé mentale avec des partenaires aussi de l'Outaouais, hein, des collègues de travail qui se sont dit « moi aussi, je veux embarquer » puis ben parler de ce sujet important sur les ondes du 97.3. Et aujourd'hui, on va discuter avec Marie-Pierre Saint-Denis-Lafrenière. Elle est organisatrice communautaire à la direction de la santé publique. Marie-Pierre, bonjour.
Allô, Sébastien.
On en a parlé dans d'autres chroniques cette semaine, c'est la semaine de prévention du suicide, puis il en sera particulièrement question aujourd'hui, mais plus précisément chez les aînés.
Oui, c'est ça, Sébastien. Donc, comme tu disais, oui, vous m'avez entendu parler, là, entre autres, par notre partenaire Carole Saint-Amour, mm-hmm. de Suicide des Tours, et le thème est « Parler du suicide sauve des vies ». Donc, le suicide, ça touche tout le monde. Hein. Ça n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de culture, pas de religion. Mais comme tu le disais, Sébastien, aujourd'hui, j'ai choisi de m'attarder à la prévention du suicide chez les aînés. Aussi, je vais faire des liens, bien sûr, avec le contexte pandémique actuel. Mm-hmm. Je sais qu'on est tanné d'en entendre parler, mais ça évidemment un lien avec l'augmentation de la détresse psychologique.
C'est là, on n'a pas le choix, il faut faire avec, là.
Oui, c'est ça. Le suicide chez les personnes aînées, là, quand je parle de personnes aînées, les personnes de 65 ans et plus, ben ça existe, puis c'est important d'en parler. Fait que je vais commencer en vous parlant des facteurs qui peuvent contribuer au suicide. Mm-hmm. Par exemple, il y a l'isolement. On sait, là, c'est un enjeu de masse dans notre contexte pandémique actuel. Le quotidien est perturbé. Les moments pour socialiser, que ce soit par la visite de proches, les sorties, les activités comme aller à l'âge d'or, à vie active, aller à l'église, tout ça n'a plus lieu. Mm-hmm. Fait que ça amène, c'est sûr que ça amène l'isolement puis une perte de repères. Il y a la stigmatisation qui est aussi difficile. La pandémie a beaucoup mis l'accent sur les personnes âgées se sont vus imposer des mesures de restriction assez strictes. C'est certain que le but est de les protéger avec une intention vraiment bienveillante, mais ça a eu des effets collatéraux, dont des préjugés. Par exemple, on a pu entendre des commentaires pointer une personne âgée à l'épicerie en voulant dire « t'as pas d'affaires à sortir ». Mm-hmm. Ça a pu amener chez certaines personnes âgées un sentiment d'être exclu de la société et d'être infantilisé.
Oui, il y en a même qui vont jusqu'à dire « personne âgée », ce mot-là, je suis comme un peu tanné de l'entendre là, depuis un an. Là.
Oui, c'est vrai parce que on l'entend beaucoup puis ça, c'est comme si ça donnait une étiquette à ces mm-hmm. personnes-là. Mais c'est pas du tout l'intention, là. Toujours dans les causes, il y a les pertes et les deuils mm-hmm. qui sont des facteurs qui peuvent mener au suicide, que ce soit une perte d'autonomie, le décès d'un conjoint, la perte de son permis de conduire. Il y a aussi le contexte quand on perd un proche en ce moment, en pandémie, mais ça complique beaucoup le processus de deuil. Parce qu'on n'a pas toujours la chance de se rendre au chevet de la personne, mm-hmm. ni d'assister à une cérémonie en lien avec le décès, là, comme une messe ou se rendre au salon funéraire.
Si on peut, c'est très différent de ce que ça aurait pu être, là.
Oui, c'est certain. Fait que, tu sais, les rituels habituels qui peuvent nous aider à cheminer dans notre deuil, ils ont changé mm-hmm. ou même des fois, on n'arrive pas à les pratiquer. Toujours un facteur prédisposant, il y a la consommation, là, que ce soit alcool, médicaments, il y a d'autres exemples aussi, là. Mm-hmm. L'état de santé, c'est un autre point qui comprend les maladies physiques, mais aussi les maladies mentales, les douleurs chroniques qui peuvent amener, entre autres, comme la peur pour la personne de devenir un poids pour les autres, un fardeau.
OK.
Il y a aussi la peur d'attraper le virus en ce moment, la peur de si on est malade, est-ce que je vais pouvoir être soignée ou avoir tous les soins adéquats. La maltraitance est aussi une cause de détresse. C'est un sujet qu'on parle de plus en plus, mais selon moi encore trop méconnu et non dénoncé. quand on parle de maltraitance, c'est pas seulement les abus physiques, c'est très large. Okay. Ça englobe beaucoup, beaucoup d'exemples. Puis d'ailleurs, c'est tellement large et important, je trouve qu'éventuellement, ça ferait une bonne chronique pour nous, les intervenants du CIF, là, pour bon. Une prochaine fois.
On y reviendra plus en détail dans ce cas-là, mais si tu avais quelques exemples à nous donner, là.
Oui, oui, certains. Il y a la violation de droits. Par exemple, un enfant qui pourrait pousser la personne à aller en résidence sans tenir compte de son opinion. La maltraitance financière, faire des pressions sur la personne pour modifier un testament. Mm-hmm. La maltraitance organisationnelle, hein, ça existe. Donner un service de façon brusque, donner un soin sans avoir pris le temps de l'expliquer à la personne d'avoir été chercher son consentement. Fait que, bref, tout ça, c'est des exemples de facteurs qui peuvent mener au suicide.
Puis là, si on va à l'inverse, puis on veut peut-être des facteurs pour diminuer les risques, il y en a sûrement aussi.
Oui, oui, il y en a. Je voulais juste préciser, par exemple, avant de me rendre là, tu sais, quand on entend ça, je veux pas que tout le monde ait l'impression de dire « Ah, une personne vit un problème de santé, l'isolement, ça veut dire qu'elle va peut-être se suicider. Mm-hmm. » Non, c'est pas le cas. Il faut tenir compte d'un contexte. Mais ce qu'on veut, c'est que c'est des signes de détresse. Avant d'avoir des idées quand on a ces signes-là, demandez de l'aide pour ne pas vous rendre justement au point où ce que vous allez penser à vous enlever la vie. Là. Fait, oui, comme tu disais, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour diminuer un peu cette souffrance-là. Selon moi, une des majeures, c'est le soutien social. Vous l'avez entendu là, la semaine passée, dans sa chronique, mon collègue Yves a parlé de l'importance d'être en lien, l'importance d'être là pour une personne, parce que la souffrance va être plus tolérable si on se sent accompagné. La semaine passée, Carole de Suicide des Tours l'a dit aussi, parlez de vive voix, appelez vos proches, parce que oui, parler, ça fait du bien, ça nous fait réaliser qu'on n'est pas toute seule, ça libère. Ça permet un pas de recul afin d'envisager d'autres solutions au problème. Mm-hmm. Mais oui, par exemple, c'est difficile, ça demande du courage. Des fois, on a peur de déranger. On trouve pas les mots. On aurait comme le goût de parler, mais ça sort pas. C'est pour cette raison que les proches là, peuvent être de bons alliés en se montrant sensibles aux changements puis en venant soutenir la personne à se confier. Dans les facteurs de protection, il y a la résilience, la capacité de trouver des solutions, de surmonter des difficultés, l'accès à des ressources d'aide, la spiritualité. Nos croyances là, peuvent nous servir de repère et nourrir l'espoir.
Okay.
L'estime de soi, la solidarité citoyenne, comme par exemple notre voisin qui vient prendre de nos nouvelles, recevoir des appels de bienveillance, de la communauté, toute l'entraide, c'est aussi des facteurs de protection très significatifs pour moi.
Okay.
Les bonnes habitudes de vie en sont d'autres, comme le sommeil, la bonne alimentation, bouger. Fait que c'est des exemples, il y en existe d'autres, puis je suis certaine que chacun a aussi ses propres moyens qui fonctionnent. Le but, c'est de les appliquer et de tendre la main quand ça ne va pas bien.
Tantôt, tu nous parlais là, des facteurs là, de cause de tout ça, puis il y avait beaucoup d'exemples, mais il y a peut-être des petits drapeaux, là, des indices plus précis qu'un proche, bien, il y a peut-être des idées un peu plus noires. Là.
Oui, oui, c'est ça, comme les drapeaux rouges, comme on dit, là, il y a des messages qui peuvent être plus directs. Par exemple, bien, je vais me tuer, j'ai plus le goût de vivre, vous allez être mieux sans moi. Il y a des messages ou des comportements plus indirects. Donner des objets significatifs, des biens, faire allusion à lorsque je serai partie. Par contre, ces signaux-là ne sont pas automatiquement associés au suicide. Le non-verbal, d'autres changements chez la personne dans son comportement ou comme des signes de dépression, comme la perte d'intérêt, avoir le regard vide, plus fatigué, la perte de poids, d'appétit, tout ça mis ensemble là, peut amener justement des indices qui vont nous faire allumer qu'il y a un drapeau rouge. Puis je pense aussi, quand on est proche puis qu'on voit ça, fiez-vous à votre feeling, là, la petite voix intérieure, puis dites-vous, ah, je suis pas bien avec ce que je reçois, je vais aller voir plus loin.
Mm-hmm.
Puis c'est aussi important de ne pas mettre tous ces signes-là, signaux, comportements, sur le dos de la vieillesse.
Okay.
Ça peut être des signes de détresse. Fait que comme je disais tantôt, je veux aller voir plus loin.
Je veux en parler, oui. Comment on fait ça, là?
Comment on fait ça? Fait qu'il y a le site « Comment parler du suicide » de la QPS, qui est l'Association québécoise de prévention du suicide, qui propose des mots accessibles à tout le monde pour aborder la question mm-hmm. du suicide. C'est important de se respecter puis d'aller avec ce qui nous vient comme impression. Parce que c'est difficile d'en parler, c'est pas naturel de parler du suicide, puis c'est déstabilisant. On peut y aller de façon plus directe, comme « est-ce que tu penses au suicide? » On peut y aller de façon moins directe, comme « t'as pas l'air de filer, mm-hmm. il me semble pas comme d'habitude, est-ce que j'ai raison? » L'important, là, c'est d'y aller dans le respect en encourageant la personne à nous parler. « Aimerais-tu m'en parler? » Je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter. Ce qui compte, ben, c'est d'instaurer un climat de confiance, accueillant, sans jugement, en prenant le temps d'écouter, sans interrompre, sans trop s'activer d'une solution. Ensuite, il est très fortement conseillé d'accompagner la personne vers des ressources d'aide.
Mm-hmm. Donc là, c'est le temps là, de prendre des numéros en note, là.
Oui. Ici, dans la région, ben on a Suicide Déto, qui est l'organisme expert sur le sujet. On peut les rejoindre au 819-441-1010. Et on les rejoint là quand ça va pas.
Mm-hmm.
Ils sont là en prévention. Donc, on n'attend pas d'avoir les suicidants, comme je disais tantôt.
OK.
On peut aussi composer le 811. Option 2, qui est info sociale, pour faire une demande d'aide et être dirigé au bon endroit, que ce soit dans nos organismes partenaires ou au CLSC. Puis, s'il s'agit d'une crise, comme le 811, option 2, qui est une bonne voie, et aussi une ligne de crise, qui est le 1-866-APPEL. Fait que ce soit par l'entremise d'un proche ou par vous-même, bien, utilisez ces services, puis n'hésitez pas. En terminant, je voulais finir sur une note un peu plus positive.
Mm-hmm.
Il y a en ce moment, dans la vallée de la Gatineau, une vague d'amour qui a été initiée par Suicide Détour.
Oui, c'est
je
vrai,
sais
oui,
pas
oui.
Si vous n'avez entendu parler.
C'est les cœurs qu'on doit aller coller là, chez les gens qu'on aime, c'est ça?
Oui, c'est ça. On fabrique un cœur à la maison. On écrit un message de notre choix. Il y a le message là, de promotion cette semaine qui était important pour moi. Et on va le coller dans la fenêtre d'un proche. Fait que qu'est-ce qu'on veut, là, c'est voir une grosse vague d'amour puis voir des cœurs partout dans la vallée.
C'est pas un gros câlin, mais ça fait du bien quand même.
Oui, oui.
Marie-Pierre Saint-Denis Lafrenière, organisatrice communautaire, merci beaucoup pour ces précieux conseils aujourd'hui puis à bientôt.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.